Nous sommes au milieu des Makot. Et à un moment donné, Paro aurait bien pu, Hachem aurait pu arrêter les Makot. Mais il dit à mon cher Rabbeinu, il lui dit, Bo el Paro, ki ani ichbadti et libo vet lev abadav, lema'an shiti ototai ele. De Kirbo. Pourquoi est-ce que je rends Paro et ses serviteurs, gens qui sont autour de lui, je les rends capables de supporter les makot et de ne pas céder? Parce que je veux manifester mes otot, mes signes, en son sein, au sein de l'Égypte. Et puis, donc ça c'est, Hachem veut se manifester en Égypte. Mais il y a quelque chose qui nous concerne plus. Il y a où le Ma'an, et aussi pour que te sa père, que tu racontes, Be'ozne bincha, ou ven bincha, et Hacherita l'alti be'mitzrayim, Vet ototai asher samtivam, vidatem ki ani Hashem. Donc Hashem dit, je veux, effectivement, je ne veux pas céder. Je ne veux pas maintenant cesser d'envoyer des makot. J'en envoie. Parce que je veux que tu racontes. Tu racontes. Il y a. C'est assez intéressant, je veux dire. Je veux que tu racontes que, comme je me suis moqué de l'Égypte et comme j'ai manifesté tous mes signes, tous mes otot. En Égypte, vidatem ki ad Yachem. Et vous saurez que ani Yachem. Alors regardons un peu ce passouk. C'est le passouk bête dans le chapitre Yud. Au tout début de la paracha. Rachid dit sur et Asher Italalti, je me suis moqué de l'Égypte, de Paro. Sichakti, j'ai joué avec eux. Comme. Il y a dans Passouk, dans Bamidbar, plus loin, où on dit Sichakti, comment italalt bi. Donc, Rashi apporte plusieurs sources. Alors, en quoi est-ce que c'est important? Que Hachem se soit moqué de l'Égypte et que une des raisons pour laquelle il s'est moqué de l'Égypte, c'est pour que je le raconte, pour que les Bnei Israël racontent qu'il s'est moqué de l'Égypte. C'est la mitzvah De Vigata Levincha Bayomahu, c'est la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte à son enfant. Et donc il y a cette idée de saper. Tu vas raconter. Tu vas raconter aux enfants, tu vas leur expliquer que parfois les choses arrivent jusque-là. C'est-à-dire que il arrive un moment où il n'est plus possible de faire tchouva. C'était le cas avec Paro. À partir de ce moment, à ce moment-là, les voies de la tchouva sont fermées. Il pouvait faire tchouva jusque-là, mais maintenant il ne peut plus. Comme quelqu'un qui dirait dans sa jeunesse, bon, je suis au top de mes capacités, je vais aller jouir de la vie, et quand je serai vieux, je ferai tchouva. Au contraire, dans sa vieillesse, il aura déjà tout oublié. Il va oublier aussi de faire tchouva. Parce que tout ce qu'il a fait dans sa jeunesse, ça ne le dérange plus. Ça ne dérange pas. Excusez-moi. On va voir ce qu'on peut faire.
C'est bon. C'est bon.
Tu l'as fait? Ah bon? Il a pensé que quand il n'aura plus vraiment envie, ou plus vraiment les moyens de jouir de ce monde-ci, alors il va s'attaquer, il va se préparer pour l'homme là-bas. Le Ribbono shel Olam, le maître du monde, il ne lui servira pas une deuxième fois la possibilité de faire tchouva. On le voit ici, l'exemple de tout cela, c'est Paro. C'est pour ça que on doit présenter les makot qui viennent à partir de ce moment-là, par trois, en fait. Parce que ces makot-là, elles ont été données dans une situation de qui a ni irbati et libo. Hachem dit, c'est moi qui ai lui donner la résistance, la capacité de résistance. Les makot, c'était tellement dur à supporter, normalement, il aurait dû céder. Mais Hachem l'a aidé à ne pas céder. Ça veut dire, on n'est plus du tout dans son cheshbon personnel. Il est un pion sur une démonstration qu'Hachem veut faire. C'est pour qu'on sache effectivement qu'on ne peut pas faire ces raisonnements de dire je vais jouir des deux mondes, un après l'autre. Toujours cette idée de Echete ve'ashuv, en maspikim beyado la'asot tshuva. Dans Chazal, on dit que v'makom shebaalei tshuva omdim. Ein tzadikim gmurim yecholim la'amod. Que là où les baalei tshuva peuvent se tenir, les tzadikim ne peuvent pas se tenir. Et donc, puisque on arrive à un niveau plus élevé en ayant fait tshuva, alors normalement on devrait se dire, ben, je vais faire des fautes. Et ensuite, je ferai tchouva. Je vais me retrouver plus haut que je ne serais si je ne faisais pas de faute. Le problème, c'est que Hachem ne nous donne pas la possibilité de faire tchouva. Et c'est ça le but des makot. Voilà. Pouvoir raconter. Ce jour-là, le jour du commande Pessah, racontez à ton enfant ce que je me suis moqué de l'Égypte. Rachid dit, Sichakti, que mot est à l'altbi. Ce qui veut dire, je me suis moqué d'eux, c'est-à-dire. Mais c'est quoi le pshat, là? C'est vrai, Akadosh Baruch Hu voulait que tout le monde sache. Après la maca du Barad, alors Paro était d'accord de renvoyer les Bnei Israël d'Égypte. Mais s'il ne l'a pas fait, c'est parce qu'Hachem a endurci son cœur, comme on dit. Et donc, ça veut dire que les Bnei Israël vont rester encore un peu plus longtemps en Égypte. Si Hachem n'avait pas endurci le cœur de Paro, les Bnei Israël seraient déjà dehors. Le fait que Hachem n'a pas laissé Paro se rendre. Il n'est pas sorti avec un drapeau blanc et c'est ça le pshat de It Alalti. Je me suis moqué. J'aurais pu le laisser renvoyer les Bnei Israël tout de suite. Et s'ils étaient sortis, bon, les Égyptiens auraient pu, s'il fallait absolument, les Égyptiens, ils auraient pu recevoir les Makot après. Puisque eux, ils devaient recevoir les 10 Makot. Ça, il t'alalti. Paro est prêt à les renvoyer, mais moi, non. Moi, je ne laisse pas faire. Les makot elles-mêmes ne sont pas la moquerie elle-même. C'est la façon dont les makot sont arrivées qui est la moquerie. Elles sont arrivées sous forme de hit à l'alti. Et puis il y a aussi et ototai asher samtivam, les signes, les hôtes, le hôte que j'ai montré en Égypte. Ils doivent connaître ces signes. Et de ta matée, azé, tikar biyadecha, ta otot. Ils doivent savoir quelque chose sur les secrets ou sur la signification de ces 10 makot. Bien que dans la Haggadah, dans le texte de la Haggadah Shel Pessah, est-ce qu'on s'étend suffisamment, comme il le faudrait vraiment, sur le sujet des 10 Makot? Peut-être pas. En tout cas, il faut que nous comprenions qu'il y a beaucoup plus que ce qu'on voit à l'œil nu, quoi. On a vu les makots. C'est beaucoup plus que ça. Alors, dans la suite du texte, Ça devient tellement terrible que les serviteurs de Paro lui disent Admatai, Yezelanu le Mokesh. Jusqu'à quand on va devoir supporter ces makot? Renvoie ces gens. Ils aiment servir leur Dieu. Est-ce que tu n'as pas compris que l'Égypte est perdue? Donc c'est les conseillers les plus proches de Paro qui lui tiennent ce langage. Moshe Rabbeinu entre chez Paro pour lui dire que le maître du monde va envoyer des sauterelles. Tout avait pratiquement été haché par le barrage. Maintenant, tout ce qui reste va être bouffé par les sauterelles. Et donc, il y aura une famine dans le pays de Canaan. Parce que les sauterelles, elles vont bouffer aussi ce qu'il y a dans les réserves, dans les silos. Et donc les serviteurs de Paro qui étaient prêts à le soutenir dans son refus de renvoyer les Bnei Israël, maintenant ils ont changé d'avis. Maintenant ils sont en train de lui dire, est-ce que tu n'as pas compris que l'Égypte est perdue et que il faut céder? C'est de la folie de ne pas les laisser partir. Parce que tout ce que ce bonhomme-là, ce Moshe, dit, tout ça arrive, effectivement. Alors pourquoi est-ce que disent les serviteurs de Paro, pourquoi est-ce qu'on devrait subir tout ça? Pourquoi est-ce que nous, on a besoin d'être Moser Nefesh? Est-ce qu'on doit se sacrifier? Pour ça, de toute manière, les Bnei Israël, ils ne travaillent plus pour nous. Donc qu'est-ce que ça change s'ils sont bons? Est-ce que parce que peut-être un jour, on arrivera à reprendre le dessus et les réduire en esclavage? Pour ça, il faut que on subisse tout ce que ce bonhomme annonce là. On n'aura plus jamais la possibilité de les réduire en esclavage. Donc il faut les libérer tout de suite. Qu'est-ce que pensait Paro? Ses meilleurs conseillers lui disent de céder. Et lui ne cède pas. Lui il pense, moi je vais faire comme je pense, c'est-à-dire je vais leur permettre de sortir pour 3 jours, uniquement pour 3 jours. Et je mettrai toutes les conditions que j'ai mises, tout le monde ira pas, vous allez laisser le bétail, etc. C'est pour ça qu'il demande Mi va mi à Olchim. Il demande à Moshe qui va, qui sort. Mais s'ils allaient sortir pour définitivement, pourquoi il leur demande qui. Mon cher Abenu, il continue tout ce cinéma avec les makot. Parce qu'il fallait tromper Paro. On lui dit, oui, tu as raison, on va sortir pour 3 jours, comme tu le dis. C'est pour ça qu'il répond, מנערינו ובזקנינו נלך, בבנינו ובנותינו, בצוננו ובקוראינו נלך. On va partir avec tout le monde, tous les troupeaux, tout, absolument tout. Tous, on va tous y aller. Pourquoi? Chag Hashem Lanu. C'est une fête pour nous. Et donc tout le clan Israël, toute la structure du clan Israël doit y aller. Chag Hashem, ça veut dire qu'on a besoin à la fois des bébés, des petits-enfants. On a aussi besoin de tous les troupeaux. C'est pas comme Yom Kippour, où on n'a pas le droit de manger. C'est une fête dans laquelle on doit profiter, on doit jouir du monde. Il y a une Seouda Shel Mitzvah. C'est des repas de fête. Donc on a besoin des bêtes pour apporter les sacrifices. On a besoin d'avoir avec nous les enfants en bas âge pour les éduquer au monde des mitzvot. Comme c'est marqué dans Parshat Hakel, on amenait les enfants, aussi les bébés, quoi. Et Biskeneinu, c'est l'Avdafka. L'Avdafka des gens très vieux. Peut-être on parle aussi de gens de 40 ans. Des gens qui sont pas des tout jeunes. Paro, il ne comprenait pas, il dit. Mais pourquoi est-ce que vous devez prendre les petits-enfants, les enfants en bas âge pour la fête? Et aussi les vieillards? Est-ce que vous voulez les tuer dans le désert? Et donc, si on peut penser comme ça, alors effectivement, il doit s'étonner. Imayalaem ezesiba leorgam. S'ils avaient une raison pour les tuer, si c'est comme ça, ben pourquoi ils ne les tuent pas en Égypte? Il n'y a pas besoin d'aller dans le désert pour les tuer. La réponse c'est le pouvoir va sanctionner les gens qui vont faire des choses pareilles. Si on se met à tuer les gens, donc c'est bon à savoir qu'effectivement, ils avaient des règles, des mishpatim, hukim mishpatim en Égypte. C'est ce que Paro leur a dit. C'est pas comme ça qu'on fait la fête. Nous, on sait comment on fait les fêtes. On fait pas ça avec cette manière-là. Choisissez l'endroit où vous voulez aller, ou aller avec vos animaux pour les sacrifices, ou alors vous prenez les enfants et vous laissez les animaux, parce que si vous partez pour approcher des sacrifices, les enfants, ils n'ont absolument aucune raison d'être là-bas. Les enfants, ils n'ont pas de sacrifice à apporter. Si maintenant vous prenez les deux, donc ça veut dire que vous voulez faire quelque chose de mauvais contre l'Égypte. C'est-à-dire qu'en fait, vous voulez faire sortir tout le monde, vous voulez vous enfuir. C'est pour ça que Paro dit, Kasher Hashaleach etchem v'et taprem. Je vous renverrai vous et vos petits-enfants. Vous voulez que je vous renvoie définitivement? Ça, c'est mauvais. Pourquoi? Là, il mobilise l'astrologie. Il leur dit, il dit à Moshe, Rehu, Kira, Neged Penechem. Regardez, il y a en face de vous quelque chose de très mauvais. Le pshat dans le verset, c'est vous êtes en train de vous préparer pour faire quelque chose de mauvais contre moi. C'est ça qui a renforcé Paro. Parce que Moshe, il est allé discuter avec Paro. Pour le tromper, quoi. Mais les Avdé Paro, ils disaient, on n'a pas besoin de souffrir, on veut plus souffrir. Peut-être que Paro est en train de te rouler, que Moshe est en train de te tromper. Peut-être qu'il te roule, effectivement. Mais pourquoi est-ce que nous, on doit recevoir des coups sur la tête? Chaque fois qu'on refuse de les libérer, est-ce que c'est un châtiment éternel? Est-ce que ça va être notre destin? Chaque fois qu'on a l'impression qu'il y a une faille et que Hachem ne peut pas tout faire, que nous on se trompe, alors est-ce qu'on doit continuer de se tromper nous-mêmes avec les conséquences terribles qu'il y a pour nous? Même si leur Dieu n'est pas tout-puissant, mais tu sais bien que Shimshon est plus fort que toi, même si il ne peut pas tout faire. Tu peux être en situation de devoir reconnaître que l'autre est plus fort que toi, même s'il n'est pas, il n'est pas tout-puissant. Même s'il n'est pas tout puissant, je ne veux pas, disent les Khartoumim, je ne veux pas lutter contre lui. Les serviteurs de Paro, ils disent, même avec notre compréhension limitée, qui nous, peut-être, pourrait nous amener à penser que le Ribbono shel Olam n'est pas tout puissant, il est limité. Mais même s'il est limité, tu dois bien reconnaître qu'il est plus fort que toi. Donc c'est ton intérêt de céder. Et Paro, il répond, peut-être que vous avez raison. Mais malgré tout, moi, je ne céderai pas. Pourquoi? C'est ça, Libo. C'est Hachem qui dit, c'est moi, je vais lui donner la force. C'est-à-dire, Ani Achazek et Libo. C'est le Ani, c'est Hachem. Alors, il faut faire quelque chose qui va amener Paro à penser de la mauvaise façon. Bon, il doit s'embarquer dans un délire par rapport à la réalité que mentionnent ses meilleurs serviteurs.
Hachem,
Alors ce Ra'a Neged Penechem, ce mal qui est en face de vous, vous vous souvenez, c'est une fameuse planète rouge que Paro voit dans le bilan astronomique, enfin dans le portrait astronomique astrologique, pardon, d'Ebné Israël. Il voit qu'ils ont devant eux cette planète rouge, si vous voulez, c'est-à-dire du sang, de la mort. Et il va y avoir un problème de sang. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette histoire de sang que Paro voit par l'astrologie, ça n'est pas faux du tout. Mais pour combattre ce sang négatif, en quelque sorte, on ne peut pas l'ignorer. On ne peut pas faire que les Bnei Israël n'aient pas un problème avec le sang. Mais ce qu'il faut faire, c'est transformer ce sang de mort en un sang de vie. Et c'est ce qu'on a déjà vu souvent. D'accord? C'est pour ça que vous vous souvenez que les Bnei Israël, quand Hachem décide de les sortir d'Égypte, Hachem a un problème. Parce que il y a quelque chose de totalement inacceptable à sortir les Bnei Israël d'Égypte maintenant. Parce que les Bnei Israël n'ont aucun mérite qui justifie ce traitement de faveur. Finalement, on est en train de priver les Égyptiens d'une main-d'œuvre bon marché, entre autres. D'autant plus que par la suite, c'est pas simplement qu'on va les priver, mais qu'ils vont payer de leur vie. Bon, en tout cas, l'armée de Paro, elle va être détruite, noyée. Donc c'est énorme ce qu'on va faire. Enfin, ce qu'Hachem va faire en faveur des Bnei Israël. Et il faut qu'il y ait quelque chose qui ressemble un peu à de la justice, quelque part. Il faut qu'ils aient un mérite. Mais ce mérite, ça aurait pu être leur faire, leur donner n'importe quelle mitzvah. Mais justement, Hachem ne leur donne pas n'importe quelle mitzvah. Il leur donne deux mitzvot qui ont toutes les deux à voir avec le sang. Mais ces deux mitzvot dans lesquelles on va verser du sang, mais ce ne sera pas du sang qui est versé dans le cadre d'un meurtre ou de quelque chose de ce genre-là. C'est quelque chose où les Bnei Israël vont payer de leur personne, et puis quelque chose où les Bnei Israël vont prendre des risques pour Hachem et risques par rapport aux Égyptiens. Les deux mitzvot, c'est la mitzvah de Mila et la mitzvah de Korban Pessah, qui ont toutes les deux à voir avec le sang. C'est-à-dire, on va faire couler du sang du corps humain. Normalement, quand une des expressions pour parler du meurtre, c'est shfichut damim, c'est-à-dire de verser du sang, de répandre du sang. Et là, on va répandre un peu de sang, mais ce ne sera pas dans l'intention de faire mourir la personne dont on verse le sang. Dans la guerre, quand on tue quelqu'un et qu'on verse son sang, c'est pour le tuer. Ici, on va verser du sang, mais ce sang-là, il va être l'objet, enfin, il va être utilisé dans le cadre de quelque chose d'absolument extraordinaire c'est-à-dire une alliance entre Hachem et les hommes. Donc c'est comme si on est passé au niveau du symbolique, n'est-ce pas? La Mila, c'est symbolique de l'alliance en question. Donc c'est vrai qu'on se donne à Hachem, mais avec un petit geste très symbolique. Et le Korban Pessah, c'est vrai que on va faire la shrita du Korban Pessah, on va recueillir le sang, on va en badigeonner les poteaux, les linteaux, etc. On va faire une avoda avec le sang en question, mais en vérité, avant d'en arriver à verser ce sang-là dans le cadre du Korban, les Bnei Israël vont prendre un risque énorme. Quand Paro a dit à Moshe, pourquoi est-ce que tu les emmènes dans le désert, etc., vous n'avez qu'à pratiquer votre religion et faire vos sacrifices ici, en Égypte. Et Moshe lui a dit, mais c'est pas possible. Si on fait ça, les autorités vont considérer que c'est très très grave dans la mesure où nous, on va tuer un animal qui est un animal sacré pour les Égyptiens. Donc, ils vont pas nous laisser comme ça en paix. Or, qu'est-ce qu'ils font? D'accord? Ils vont attacher, on va leur dire, vous allez attacher 4 jours avant la Shrita, vous allez attacher le corban, l'agneau que vous allez sacrifier, vous allez le placer ostensiblement, pas du tout à sa place, c'est pas que vous allez le laisser dans la bergerie, vous allez l'attacher dans votre chambre à coucher, quelque part, l'attacher au lit. Donc ça veut dire que n'importe quel Égyptien qui va voir ce qui se passe chez vous, il verra que vous avez attaché un animal sacré. Et qui va vous demander, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Et les Bnei Israël ils vont devoir avoir la chutzpah, mais qui est un énorme courage, c'est un Messirut Nefesh, de dire aux gens, ah, oh, ben on va sacrifier votre animal sacré, on va le manger. Bon, je l'avais déjà dit l'année dernière, mais c'était vrai aussi. Imaginez que vous fassiez ça en Inde avec les vaches sacrées. Vous n'avez pas beaucoup de chances de revenir en France, hein. C'est pas possible. C'est énorme. Donc il y a un Messirut Nefesh qui leur est demandé. C'est vrai que la mitzvah, c'est le Korban Pessah, le Korban Pessah, on a une avoda, comme dans tous les korbanot, il y a toujours une avoda avec le sang et une avoda avec la viande. Avec le sang, en général, c'est des aspersions. On envoie des gouttelettes en direction de quelque chose, que ce soit le Mizbeach, que ce soit le Parochet entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, etc. On envoie des gouttelettes. Là, on n'envoie pas des gouttelettes. Ici, on va utiliser le sang en question, on va badigeonner les poteaux et les linteaux des maisons pour manifester voilà, dans cette maison-là, on pratique quelque chose, on est prêt à pratiquer quelque chose, on est prêt à prendre des risques énormes. On a pris des risques jusque-là, on est prêt à continuer de prendre des risques pour HM. Donc, ça veut dire que on traite le sang de mort par du sang de vie. C'est le seul moyen de régler le problème du sang. On ne règle pas le problème du sang en ignorant le sang, en disant qu'on ne fera pas la guerre. Parce que ça, c'est pas vrai. En fait, on a ici un enseignement dont je vous ai déjà apporté les extraits de David Feinstein. Il dit, en vérité, Paro ne voulait pas que les Bnei Israël prennent les enfants avec eux. Et quand il leur dit, Ruhu ki ra'a neged pnechem, regardez, vous avez la planète rouge dans votre thème astral. Alors, Paro leur a dit, Ani roé, ma chère thème zomemim la sot. Je vois ce que vous prévoyez de faire. Atem omrim li she'inchem rotzim la vie tataf bishvil chinuch. Au bishvil hakel, vous me dites que vous voulez prendre les enfants pour les éduquer, ou bien pour les rassembler, pour écouter, tout le monde doit entendre la parole d'Hachem. Alors, im tachnisem le bet haknesset, mais si vous faites entrer ces petits-enfants dans le bet haknesset, bevada yafriu le chol palim, ils vont déranger tous les gens qui veulent prier, les petits-enfants, là, ils vont déranger. Yatrilu litzok, les gens vont commencer à crier, sortez, évacuez tous les petits enfants, etc. Pourquoi on les amène là? Ou bemet ataf koltim a kol shel a betaknesset shi urgilim bo la chazman. En vérité, les enfants, ils doivent intérioriser les voix qu'on entend dans le Bet HaKnesset, pour qu'ils soient habitués, quand ils vont grandir, ils vont s'habituer à cela. Cette voix qu'ils ont entendue dans leur enfance, ils vont s'en rappeler toujours. Au point que si ils auraient envie de faire quelque chose qu'on ne devrait pas faire dans cette choule, ils vont entendre la voix du Beth Amidrash qui leur dira qu'on ne peut pas faire ça. Paro, ils ne comprenaient pas ça. Donc il leur dit, moi, je comprends ce que vous allez faire. Vous me racontez toute cette histoire sur les enfants. Très, très belle histoire. Pour me persuader que le chinour, il faut le commencer tout de suite. Donc Paro leur dit, je comprends très bien ce que vous allez faire. En fait, vous voulez rompre tous les liens avec l'Égypte. Et comme ça, vous allez pouvoir complètement disparaître si vous avez pris aussi vos enfants. Si vous laissiez quelque chose en gage, en Égypte. Comme par exemple, quand les Bnei Israël sont partis en Eretz Israël pour enterrer Yaakov. Ils ont laissé leurs enfants là. Si vous aviez fait ça, j'aurais été sûr qu'effectivement vous voulez revenir. Mais maintenant, alors la question qui se pose, c'est pourquoi il était d'accord qu'ils prennent les troupeaux? C'était parce que les troupeaux, c'est pas aussi important que les enfants. En fait, ce que vous voulez faire, c'est Gnevadat, ça s'appelle. Vous voulez me tromper. D'après Rashi qui dit que il leur a montré le thème astral. Paro a pensé que, en insistant pour qu'ils ne prennent pas les enfants, ou même en insistant pour qu'ils ne sortent pas, en fait, il les sauvait. Puisque lui, il sait qu'il va y avoir une tragédie s'ils sortent. Quand Paro a entendu Chag Hashem Lanu, il s'est dit, là, j'entends quelque chose qui est un vrai poison. Pourquoi est-ce que moi, dans ce qu'ils disent, j'entends que c'est un poison? Parce que j'entends ce qu'ils vont dire à l'époque du veau d'or. C'est marqué Vayar Aaron, Vayevnisbeach lefanav, Vaikra Aaron, Vayomer Chag Lashem Machar. Ces mots-là qui ont été dits dans le cadre du veau d'or, Paro qu'il est. Ils entendent là, lui qui voit, il fait de la magie. Il fait, avec sa magie, il voit une baignoire entière pleine de sang. Pour lui, le mot Chag Hashem, c'est synonyme de tragédie. Rashi explique ici que quand les Bnei Israël ont fait la faute du veau d'or, Akadosh Baruch Hu a décidé de les tuer. Hachem a voulu faire ce que Paro avait vu qu'il allait faire. Que tout le monde va mourir, sauf Moshe. C'est ce qu'Hachem a dit à Moshe, n'est-ce pas? Ve'ata ani chali, vichar api bahem, laisse-moi, ma colère va s'éclater contre eux, ve'achalem, je vais les détruire, ve'eschal le goy gadol, je ferai de toi un grand peuple. Et qu'est-ce que dit Moshe? Ah, et là, si tu fais ça, alors lama yomru Mitzrayim, les morts bera'a otsiam, alors les Égyptiens ils pourront dire, on avait bien vu qu'ils voulaient que leur Dieu voulait les tuer. Quand Moshe a dit ça, immédiatement Akadosh Baruch Hu, il a changé d'avis, il a accepté de ne pas les tuer. Tu me dis, Hachem dit à Moshe, tu me dis que les Égyptiens vont dire ça? Moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Alors, quand on dit qu'il y a Nifou. Nisrouni, ça veut dire mes enfants ont gagné contre moi. Le clan d'Israël le Ekablo Ara. Les Bnei Israël ne vont pas recevoir ce mal que Paro a vu. Yesh lomar shezeh haya הצלת נפשות של הכלל ישראל, כדי לכפור את החיזיון והכישוף של פרעה. Tout ça, c'était en fait sauver les Bnei Israël pour que Paro ne puisse pas dire on l'avait bien vu. Il ne faut pas qu'un idolâtre sorte renforcé dans son idolâtrie par ce qu'Hachem fait. Donc ça veut dire que Hachem n'a pas eu pitié des Bnei Israël, etc. Quel est l'argument que Moshe va utiliser? Il utilise l'argument du Chilul Hachem. Il dit à Hachem, si tu fais ça, il va y avoir un énorme Chilul Hachem. Ils vont dire, notre idole nous avait dit ce que tu voulais faire. Et ça voudrait dire aussi, comme les Égyptiens vont dire, Moshe va utiliser cet argument une autre fois aussi, avec un petit complément, il va dire, les Égyptiens vont dire que la raison pourquoi tu les as tués, c'est parce que tu leur as fait des promesses que tu ne peux pas tenir. Tu ne peux pas les faire vivre dans le désert, etc. Ce n'est pas possible. Et comme tu ne peux pas le faire, et que tu ne veux pas qu'on voit que tu n'y arrives pas, alors tu saisis n'importe quel prétexte pour les faire disparaître.
Dans la mission ici, c'est tout basculé.
Le problème, si vous voulez, c'est que dans toute la démarche où Hachem veut être reconnu comme Meller, dans toute cette démarche-là, Hachem prend un risque. Il prend un risque qu'il ne pourra pas faire ce qu'il veut parce qu'il y a à cause de cette possibilité d'un Chilul Hachem. Il y a des choses qu'il ne va pas pouvoir faire, qu'il faudrait faire. Mais on ne peut pas les faire parce qu'il y a un Chilul Hachem. Mais ça vient de ce que Hachem a donné ce pouvoir au Bnei Israël. S'il n'avait pas donné un tel pouvoir au Bnei Israël, le Bnei Israël n'aurait pas la possibilité de mettre le projet d'Hachem en danger. Mais ça, c'est pas seulement les Bnei Israël. Les êtres humains, effectivement, ont un très grand pouvoir à partir du moment où on dit qu'Hachem veut être reconnu comme roi. Parce que du coup, ça donne un pouvoir à ceux qui peuvent le reconnaître. Alors bien entendu, il faudrait réfléchir sur comment se fait-il que Paro ait vu cela? Comment se fait-il que par l'astrologie, on voit qu'il y a ce risque-là? Et alors, dans cette paracha, il y a le fameux Achodesh Azelachem, Rosh Chodashim, Rishon Hu Lechodesh Hashana. Avant la Galoute, avant la Geoula, pardon, avant la libération donc de l'Égypte, les Bnei Israël avaient besoin de Sruyot, comme on a dit. Il a besoin de mérite pour sortir de ce que les anges vont dire, Allô Avdé Abolazara, Allô Avdé Abolazara. Les anges de service, quand ils voient que Hachem sauve les Bnei Israël de la mer et qu'il noie les Égyptiens, ils crient au scandale. Ils disent, les deux peuples, là, sont tous des peuples idolâtres. Alors pourquoi tu en sauves un et l'autre tu le noies? C'est-à-dire que le chiboud de Mitzrayim, il a produit une catastrophe spirituelle quoi, dans le clan d'Israël. Et c'est pour ça qu'Hachem dit à Moshe, à Chodesh Hazeh lachem Rosh Chodashim, à Chodesh Hazeh, ce mois-là, ce mois-ci, nous ne voyons que Levana, qu'une lune ordinaire, comme on la voit tous les mois. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre ce mois-ci, à Chodesh Hazeh, et tous les autres mois? Mais quand le mois se déroule, alors toutes les planètes se déroulent aussi, c'est-à-dire toute l'influence des planètes se déroule aussi. À Chodesh Hazeh, ce Chodesh-là, Kacher Baal Nissan, Enze Marelanuklum. Ça nous ne montre quoi, rien du tout, il n'y a rien de spécial. Mais ceux qui voient les Mazalot, ils voient qu'il se passe quelque chose avec un talet. Avec l'agneau dans le ciel. Ou le cas, Amar Lahem à Chodesh Hazeh, ce mois-là qui a un lien avec la forme agneau, c'est le commencement de votre histoire. C'est quoi la signification de l'agneau pour nous? A priori, on doit dire que c'est un signe que nous, pour nous-mêmes, nous devons faire disparaître l'agneau de notre sein au milieu de chez nous. L'agneau, il représente une forme de richesse. Hazal demande, il y a un passage qui dit Ashtorot Tzonecha. Hazal demande, qu'est-ce qui veut dire ce verset? Ils répondent, dans la Gemara, ils répondent, chez Ma'asharot, Ma'asharot et Baalehem. Ça enrichit les propriétaires. L'agneau, il produit tout le temps de la laine. C'est un matériau important, précieux. Et cet agneau-là, c'était le mazal de l'Égypte. C'est-à-dire que l'Égypte avait une richesse naturelle qui lui était fournie par les crues du Nil. Les Égyptiens, ils n'avaient pas vraiment besoin de travailler. Parce qu'ils n'avaient pas besoin de la pluie du ciel. Donc il ne s'occupait pas de la pluie. En Égypte, il n'y avait pas de pluie, mais on n'en avait pas besoin. Donc ils avaient toujours le fruit des inondations du Nil. Donc on comprend que il n'avait besoin de personne et de rien pour arriver à la richesse. Ce truc qui produit en permanence. Les poules, enfin, si on ne les met pas des conditions dans lesquelles on les met aujourd'hui, mais elles pondent pas toute l'année. Et donc, ils se sont éloignés jusqu'à adorer, pratiquer l'idolâtrie. Ils ont servi les choses que la richesse leur a données, c'est-à-dire le Nil. C'est ça. Ce qui leur a donné la richesse, c'est le Nil, donc ils ont adoré le Nil. Donc les Égyptiens, eux aussi, ils ont vu que ce mois-là était le mois placé sous le patronage, je sais pas, de l'agneau. Mais du coup, la conséquence qu'ils en tiraient, ben c'est qu'il faut adorer l'agneau. Et du coup, ils ne faisaient la shrita, ou ils ne mangeaient jamais, ni pas d'agneau, pas de cabri, enfin, toutes ces choses-là. C'était leur idole, ils ne mangent pas son idole. Et bien sûr, par rapport au clan d'Israël, il y a un autre sens à ce Achodesh Hazelachem Rosh Chodeshim. Achodesh Hazeh, c'est votre commencement. Alors, qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous allez faire la même chose que les Égyptiens? Bon, puisque c'est notre commencement. On pourrait voir ça comme une espèce de Rosh Hashanah, et dans le cadre de ce Rosh Hashanah, on va honorer, on va adorer la spécificité de cet animal qui préside ce mois-là. Non, au contraire. On va prendre cet agneau, et on va en faire la shrita. Donc on va détruire l'agneau. Il faut éradiquer toute trace de ce mazal. Pourquoi? Parce qu'il faut en revenir au fait que seul le Ribbono shel Olam fait les choses pour toi. L'agneau ne fait rien pour toi. Alors, faisons la shrita de ce mazal. Et on va oublier le rôle de l'agneau. Parce que désormais, le commencement du clan Israël, ça n'est pas l'agneau. Le commencement du clan Israël, c'est Anochi Hashem Elokecha, Elohi Elecha, Elohim Acherim. On dit, ce mois, il est Rishonu L'Chodesh Hashanah. Si tu commences avec cette introduction-là, qui est que tout ce que je fais, je le fais avec cette condition, alors ça sera roche. Ce mois-là pourra être le premier, la tête de tous les mois. Parce que comme ça, sur le modèle du premier mois, tous les autres mois vont le copier. Toute l'année va se dérouler de cette même manière. En faisant la shrita de l'agneau, on ramène tous les mazalot à Hachem. Et comme ça, maintenant, on comprend comment le mérite de nous séparer de l'idolâtrie dépendait de cela. Ça en rapport avec ça. Le maître du monde a ordonné Be'asor la-Chodesh, le 10 du mois, alors chaque homme prendra ses bet-avot. Il prendra un agneau par maison paternelle. Et ils vont dire: Arrête, allez, le Corban Pessah Sheli. Cet agneau-là, pardon?
Sheli,
Sheli, j'ai pas dit Sheli, j'ai dit Sheli.
Corban
Il sera pour mon Corban Pessah. On va en faire la shrita le 14 du mois. Et donc, tu vas devoir garder, surveiller cet agneau pendant les 4 jours du 10 au 14. Et après ces 3 jours pleins que tu auras surveillé, pendant lesquels tu auras surveillé l'agneau, tu vas faire la shrita. Tu fais ça effectivement pour accomplir ce qui t'a été demandé par Hachem. Et si tu fais ça, alors je sais que tu vas accomplir mes mitzvot et tu vas effectivement commencer par faire cette mitzvah du Korban Pessah. Puisque pendant 3 jours, exposé à la, éventuellement à la colère et peut-être à des pulsions de mort de la part des Égyptiens, tu as tenu le coup. Maintenant, ça veut dire, dans ta tête, je sais que tu es prêt à faire ce Corban Pessah vraiment, sérieusement. Tu ne vas pas changer d'avis. Tu es arrivé au point où on ne peut plus revenir en arrière. La chose est terminée, tu as vraiment décidé. Et c'est pour ça que il nous reste cette mitzvah de garder le Korban Pessah et de l'examiner pour voir s'il n'a pas de défaut qui l'empêcherait d'être accepté comme Korban pendant ces 3 jours-là. Donc, comme si. Donc, ce temps-là est un temps de réflexion, enfin, un temps de vérification qu'on va pouvoir faire le Corban Pessah. Il ne suffit pas de vérifier la dernière minute. Chaque jour, on doit s'occuper de préparer le Corban Pessah et de proclamer d'une certaine manière, je n'ai pas changé d'avis. Je suis toujours d'avis de faire la Shrita. Je n'ai pas changé mon date. Les Égyptiens, bien sûr, ils n'ont jamais mangé leurs idoles. Ils ne voulaient pas. En fait, ils savaient très bien que s'ils le faisaient, ils mettraient un terme à l'influence positive pour eux de leur idole. Donc, en fait, c'est cette chose-là que les Égyptiens gardaient en souvenir de ce que le monde repose sur la permissivité, sur le luxe, etc. Nous, on montre ce jour-là, avec ce même agneau, que le monde tient sur Pesach HaTu et HaPesach. Ils ont fait la shrita du Coran Pessah. Donc, pour cette raison, ce mois-ci, ce mois de Nissan, donc, Nitan Lanu le Rosh Chodashim, il nous a été donné comme premier de tout, et de tête de tous les mois. Peu lui importe au Klal Israël. N'importe quel mazal, il doit s'éloigner de, il s'éloigne de tous les mazalot. Nous ne sommes pas intéressés par autre chose que ce qu'Hachem veut nous donner. Et pas ce que les gens prennent pour eux par l'intermédiaire du Mazal. Voilà, on va s'arrêter là.
Ni madame pour le bris.
Comment?
Comment il s'appelle ton fils?
Moshe.
Non. Pardon. Moshe. À ton arrière, tu dis. Madame, vas-y.
Le top.
Merci. Madame.
Élim?
Oui.
Mazal Tov, Annie, je ne sais pas si tu entends de là.
Si, j'entends très bien.
Ah ben,
Mazal
Mazal Tov,
Tov, Annie,
alors.
c'est magnifique.
Dis donc, t'es une grand-mère sérieuse maintenant. Arrière-grand-mère? Bon.
C'est pas le premier.
Oui, mais à chaque fois, tu
Oui,
persistes et
oui,
signes.
oui. C'est pas le premier.
Mazal Tov. Je suis contente, Annie. Grâce à
Un
Dieu.
grand Mazel Tov, Annie aussi. Merci. Le chef de cet Elion, Mitzel Shaddai Slonan. Omar Ladonoï, Marci Moussoulassi, Eloyav Tarbou. Kiwa, Silecha, Mi Parkiakouch, Medeveravos. Levraso, Yasser Lach, Le Tachat Kunafav Tertse, Sina, Vesokhecha, Mido. לא שיחה מפחד לים, מאחד שאוהב יומם, מדבר באופל ילו, מכתב ישרות צהריים. יפול מצידך אלף ורבבה ממנך אליך לא ייגש. רק בעיניך סבית ושלומת ראשם תראה. כי אתה אדוני מעשי עליון שמת מעונך. לא שיאונה אליך רע בנגב לא יקרב מעליך. כי מלאכה וסבלה ישמור אורך בכל דורייך. על כפיים שאונך פן תיגוב באבן רגליך. אשר חל ופיתן תדרוך תכמוס ופיש השטנים, כי חשק ופלטהו וסבהו כי יד השמי, יקחייני בעיניהו, הנה ונוכי ובשרה חשבו וכבדהו, אורך ימים, אז ביהו, והרהו בשווסי.
Shir la Maalot, et Saena Yeliarim Me'aim Yavu Ezri. Ezri Me'im Adonai, Osei Shamaim Vaaretz. Al Eten Lamot Raglecha Al Yanum Shomrecha. Iné lo yanum velo ishan shomer Israël. Adonai shomrecha, Adonai tzilecha, al yad yeminecha. Yomam ha-shemesh lo yakeka ve'yareach ba'layla. Adonai ishmorecha mikol ra, ishmor et nafshecha. Adonai ishmor tetecha vuecha me'ata ve'ad olam.